La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un événement ? On dit qu'un événement se produit lorsque quelque chose advient, un quelque chose qui est capable de bouleverser en partie la situation, en faisant advenir des éléments qui n'étaient ni donnés, ni déterminés. Si l'on en croit cette définition, il y aurait comme une opposition entre la notion d'événement et celle de chose. Car le quelque chose qui advient lorsqu'un événement se produit n'est pas une chose proprement dite. C'est plutôt un surgissement, un jaillissement imprévisible, un jet de singularité dont la répétition émousserait la singularité même, une flagrance déstabilisante qui bouleverse notre rapport au temps ordinaire et nous éloigne de l'ordre prédicatif. Quand il n'y a plus rien où se prendre, disait Charles Péguy, on sent qu'on est dans l'événement même. Fin de citation. L'événement est donc bien quelque chose de très spécial, un quelque chose qui n'a pas la persistance qu'ont ordinairement les choses, un quelque chose qui ressemble effectivement au contraire d'une chose. Mais je sais bien que cette opposition n'est pas absolue. Un physicien connaissant la théorie de la relativité pourrait en effet me rétorquer que le mobilier ontologique de cette théorie n'est pas constitué de choses, d'objets matériels par exemple, mais d'événements, chacun étant repéré par un point dans l'espace-temps. Il n'y a plus de choses proprement dites. Ou, pour le dire mieux, la relativité fait des choses une suite continue d'événements. En somme, pour elle, tout est événement. L'événement devient la norme. L'événement est la platitude relativiste par excellence. Il représente tout ce qu'il y a de plus banal et de moins événementiel. Dans l'espace-temps, même ce qui est statique et invariable devient une suite d'événements. Par exemple, la persistance d'un bloc de marbre ou celle de la pyramide du Louvre sont des événements qui se succèdent et qui se trouvent représentés par des hypervolumes à quatre dimensions dans l'espace-temps. Ce sont des événements non ponctuels, des événements qui perdurent au sens où ils se répètent à l'identique, ce qui lie finalement la notion de chose à celle d'événement, mais la rend somme toute secondaire par rapport à elle. Je sais bien que ce que je viens de dire n'est pas tout à fait compréhensible, il faudrait que je retravaille la formulation, mais ce n'est pas trop grave, car vous m'accorderez que lorsqu'on parle d'événement, on pense à l'histoire plutôt qu'à la physique relativiste. Alors posons-nous les questions suivantes, en n'y allant pas avec le dos de la cuillère. Qu'est-ce qu'un événement aux yeux des historiens ? Comment les classent-ils ? Comment les hiérarchisent-ils ? En vertu de quels critères un événement se trouve-t-il qualifié d'historique ? A-t-on le droit de dire que l'histoire, en tant que discipline, serait la science des événements historiques ? Mais cette définition ne se mordrait-elle pas la queue ? Et puis d'abord, l'histoire est-elle vraiment une science ? Pour discuter ces questions qui me dépassent tout à fait, je me suis dit, en prenant appui sur l'extraordinaire banalité de ma sagesse, que le mieux serait d'inviter un historien. Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour Étienne Klein.
Vous êtes historien professeur à l'université Panthéon à Sas. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. Le dernier, je crois, s'appelle « Sur les traces des serial killers ».
Oui, ça fait moins historique que ce que j'ai pu faire sur le nazisme.
C'est pas grave, ça sera pas notre sujet.
Voilà.
Alors, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous avez entendu les questions que je souhaite vous poser.
J'en ai entendu et j'ai entendu l'écho même à la théorie de la relativité observant l'événement. Et je dois avouer que je la trouve pas si éloignée de la pratique d'un certain nombre d'historiens.
C'est-à-dire qu'il n'y aurait que des événements finalement dans l'histoire.
C'était même la matière de départ, hein, quand on réfléchit aux plus anciens historiens, quand on regarde Thucydide, hein, qui nous raconte les guerres du Péloponnèse au 5e siècle avant notre ère, ou qu'on prend Xénophon, qui est un historien que j'adore. Xénophon, vous savez, c'est un type qui racontait une catastrophe, c'était une expédition qu'ils ont faite en Perse, et ça rate complètement, quoi. Ça s'appelle l'Anabase, et c'est le même qui a d'ailleurs fait un livre d'économie, donc ça montre que l'histoire n'était pas aussi constituée que ça. Mais pour eux, ce qui importe, c'est effectivement une série d'actions. Il raconte les actions d'un certain nombre de personnalités. Donc, chaque action est considérée et traitée comme un événement, c'est-à-dire quelque chose qui est dans un espace-temps, donc qui est malgré tout localisé, qui met en œuvre des acteurs et qui va donc produire des effets. Et c'est peut-être là-dessus que la question se pose, parce qu'un événement qui produit pas d'effet, pour le coup, ce serait ce qu'on appelle, et ce que vous appelez vous aussi les physiciens, une anecdote.
Mais il peut produire des effets à long terme ou des effets qui sont provisoirement cachés.
Exactement. Mais alors évidemment, ça a changé tout ça, parce que là, je parle d'historiens qui traitaient la matière du réel. Et il y en a un certain nombre, je pense notamment à Pierre Nora, hein, qui considère que l'événement, c'est-à-dire ce moment hein, du passé, cet extrait du passé, eh bien en fait, nous ne le connaissons que par des tiers. Nous le connaissons, ce qui s'est passé le 13 novembre, la plupart d'entre nous, nous l'avons découvert à travers des chaînes d'information continue, à travers la radio, à travers la télévision. Nous connaissons les grands événements du passé à travers des chroniques, des archives, des rapports de police. Moi, c'est une source que j'aime beaucoup, le rapport de police, parce qu'on a l'impression qu'on est carrément pris dans la matière. Mais donc, ce que nous disent des gens comme Pierre Nora, c'est qu'au fond, l'événement n'existe que pour autant qu'il est connu. Donc que pour autant qu'il est relaté.
Et qui produit des effets visibles, sans quoi il n'est pas connaissable. On ne le découvre, on ne le comprend qu'après coup.
Alors voilà,
le 13 novembre, il a été préparé de longue date.
Mais ça, c'est un événement visible. Mais effectivement, il est le résultat d'une chaîne d'événements qui a commencé bien en amont. On peut se demander s'il n'y a pas, à un moment donné, dans la scolarité de l'un ou de l'autre, des protagonistes, quelque chose qui a joué dans la vie familiale de l'un ou de l'autre. Hein. Quel a été le déterminant qui fait qu'à un moment donné, tel ou tel acteur s'est mis en mouvement.
Donc c'est une vraie... déterminant, ça veut dire qu'il y a une détermination, donc une explication possible.
Alors voilà, c'est là où on touche la question clé. C'est-à-dire que soit on traite l'événement en tant que tel, et effectivement, à ce moment-là, on doit se poser la question. C'est d'ailleurs ce qui était très intéressant, parce que dans la brève introduction que vous avez faite, vous avez défini l'événement avant tout comme singulier. C'est-à-dire que, et de la phrase de Peggy que vous avez prise, c'est vraiment l'idée que l'événement, en fait, ne vaudrait que par son unicité. Or, en fait, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'événements qui se répètent. Donc, on peut les traiter, effectivement, chacun pour soi, ou on peut les regarder comme les produits d'une série ou comme les composantes d'une séquence.
Et s'ils se répètent, est-ce que vous avez tendance à dire qu'ils seraient dus à une même cause ?
Alors, c'est ça qui fait qu'un certain nombre d'historiens pensent que l'histoire peut être une science, parce que précisément, elle peut déterminer un certain nombre de causes, un certain nombre de phénomènes qui se répètent, et que donc elle a une capacité prédictive.
Il y a des causes, mais il y a aussi beaucoup de contingences dans un texte sur le rôle de l'imprévu dans l'histoire. Mmh. Vous rappelez que Jeanne d'Arc, qui a été blessée à la bataille d'Orléans, mmh, a donc été touchée par une flèche tirée par des Anglais ou quelqu'un d'autre, mmh, qui s'est planté à 10 cm de son cœur.
Exactement.
10 cm, c'est pas beaucoup. Elle aurait pu être tuée.
Oui,
et s'il avait
vrai.
Été tué, Charles VII n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait.
Exactement. Et c'est ce qu'il fait. Alors, pour le coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que...
C'est les lois physiques, en l'occurrence, qui ont déterminé la trajectoire de la flèche.
C'est ça. Et pour le coup, c'est vrai que ça nous amène à distinguer des catégories d'événements, en fait. Il y a des événements qui nous paraissent déterminants. Nora utilisait le mot d'événement monstre, notamment pour tous ceux qui font l'objet d'une surmédiatisation. 68, le 13 novembre, puisqu'on en parle. Et ça, c'est vrai que c'est des événements où on a l'impression qu'il n'y a pas de reproductibilité, qui sont uniques en eux-mêmes et qu'en plus, ils courbent l'espace-temps. C'est-à-dire qu'en fait, il transforme la trajectoire même de l'histoire.
Courber l'espace-temps, ça c'est un truc de relativité générale.
Alors, j'adore.
Par restreinte.
Voilà. Alors, comme tous les gens des sciences humaines et sociales, on a une passion qui consiste à prendre les concepts de physique, de biologie,
c'est-à-dire
des sciences
cognitives. Ce que vous dites, c'est que ce qui se passe dans l'espace-temps, un événement monstre, peut changer la structure même de l'espace-temps, en tout cas tel que nous le vivons et le décrivons.
Exactement. Mais on est bien d'accord que c'est, une saisine sauvage.
D'ondes gravitationnelles.
Voilà, c'est une saisine sauvage.
Bon, cela dit, on peut poursuivre l'analogie. Un événement monstre comme le 13 novembre ou le 11 septembre 2001 a produit des ondes gravitationnelles. C'est-à-dire des espèces d'effets à long terme qui se propagent et qui jouent dans toutes les actions présentes.
Effectivement. Et ça, c'est un aspect qui est très intéressant, je trouve, et qu'un historien, en tout cas, un des plus connus, a le mieux traité, c'est Fernand Braudel. Avec l'idée, au fond, qu'il pouvait y avoir des événements de surface, il pouvait y avoir des phénomènes de fond, et que tout ça se traduisait par des durées différentes. Et je trouve que ce qu'il y a d'assez fascinant dans le concept qu'il avait mis en avant de longue durée, ça permettait de mettre en relation des séries d'événements et de les traiter comme une matière scientifique. C'est-à-dire qu'au fond, pour lui, le sériel permettait de sortir au fond de cette idée que l'histoire ne traite que du singulier. Parce que c'est quand même ça, un des gros débats qu'on a eu pendant des siècles, c'était est-ce que l'histoire traitait du particulier, est-ce que c'était une science du particulier, ou est-ce que l'histoire, au contraire, devait être considérée comme une science du général, c'est-à-dire une science capable de porter un discours sur la société. Donc une science sociale au sens le plus large et le plus puissant. Et pour Braudel, c'est évident que les séries d'événements qui se reproduisent, les événements économiques notamment, les structures économiques qui se mettent en place vont exercer une influence de très longue durée. Et nous vivons sur des principes d'économie monde qui remontent au 16e, 17e siècle, qui ont été établis par des petits fondateurs d'un capitalisme qui est le capitalisme hollandais, hein, cette économie monde, qui petit à petit a grossi et est devenue au fond l'économie mondialisée que nous connaissons, avec les mêmes phénomènes de krach boursier, avec les mêmes phénomènes de surinvestissement et de financiarisation. Donc on pourrait considérer que nous sommes enfermés dans une structure.
Il y aurait une sorte de physique de l'histoire, physique sociale, avec des lois, des principes, des lois de causalité qui font que si une cause se répète, les effets vont être les mêmes.
Exactement. Il y a un certain nombre de savants hein, qui ont essayé d'embrasser ce filon. Je dirais pas forcément autant des historiens que parfois des économistes ou des épistémologues qui se sont emparés de cette idée pour essayer de faire l'équivalent, quand même, hein, il faut le rappeler, de ce que Comte, Auguste Comte, appelait une physique sociale. Rappelez-vous, Auguste Comte, dans sa classification des sciences... Nous sommes tous les enfants d'Auguste Comte d'une certaine manière. Mais Auguste Comte avait cette idée que pour faire de la science positive, on pouvait faire de la physique, donc sur les lois de la Terre, et qu'on devait parvenir à faire une physique sociale, ce qu'il avait nommé la fameuse néologisme sociologie, qui lui paraissait devoir être un jour le sommet des sciences. Et au fond, l'histoire, pour un certain nombre d'historiens positivistes, devait pouvoir donner des sortes de lois de l'histoire un peu répétitives.
Donc en fait, il y a de l'imprévu, mais il n'y a pas d'imprévisible. L'imprévisible, c'est parce qu'on ne connaît pas tous les paramètres cachés qui sous-déterminent l'évolution des choses.
Voilà, alors ça a entraîné, ce que vous venez de dire, un nouveau débat. Au fond, est-ce qu'à force d'être déterministes, les historiens n'en venaient pas à être finalistes, à avoir une certaine conception téléologique des choses
Hegel.
Exactement. À avoir une vision de l'histoire. C'est d'ailleurs intéressant parce qu'un de ceux qui est juste en deçà de ce débat, il intervient juste avant que ce gros débat se noue, c'est Michelet. Et Michelet est un homme qui pense la durée de l'événement et qui est frappé par les révolutions. Et donc, il va construire tout un tas d'ouvrages, notamment un, je pense, qui s'appelle Le Peuple, sur l'idée qu'il faut se révolter contre le fatalisme. Parce que si au fond, s'il y a des lois de l'histoire, s'il y a des causes, si elles se reproduisent, au fond, il y aurait une sorte de fatalité. Or, ce que nous dit Michelet, ce que montre l'histoire, c'est qu'il n'y a pas de fatalisme. Il n'y a pas de fatalité. À un moment donné, un peuple peut se prendre en charge et produire ce qui lui paraît être le plus gros de tous les événements, produire une révolution. Donc, un changement radical de ce qui était prévisible,
mis en place. Une révolution, c'est une sorte de révolte contre les lois de l'histoire telles qu'elles sont avancées par ceux qui prône soit la conservation, soit le déclin.
Exactement. Et ça touche à un aspect qui a fait, alors pour le coup, la plus grosse violence contre les historiens, c'est cette idée qu'au fond, l'histoire, c'est la science des vainqueurs. Que l'histoire est écrite par les vainqueurs, par ceux qui, au fond, ont gagné la bataille, ont gagné la guerre, etc.
Or, ou en histoire des sciences, ceux qui ont eu raison... lors d'une controverse, par exemple.
Exactement. Ce sont eux qui imposent la nouvelle structure qui se met en place, structure de pouvoir, structure sociale, structure d'administration. Et en fait, ce que l'approche de Michelet indique, c'est qu'au fond, à un moment donné, on peut tordre cet ordre-là, et par le jeu de la révolution, par le jeu de l'action, d'un certain nombre d'individus qui seront peut-être moins rentrés dans le moule. Je ne sais pas exactement comment ils l'analyseraient, mais en tout cas qui ont une forme de conscience de ce qui est en train de se jouer plus aiguë et qui vont se mettre en œuvre pour justement briser cet ordre. Juste, j'étais en train de penser, l'un des historiens qui a repris le texte de Michelet n'est autre que Lucien Febvre. Lucien Febvre, le cofondateur de l'École des Annales avec Marc Bloch. Et le moment où Febvre reprend ce texte-là, c'est juste au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et il a une lecture du peuple de Michelet qui est totalement influencée par ce qui vient de se passer dans l'occupation entre ceux qui ont suivi l'ordre établi, ceux qui ont suivi l'occupation et ceux qui, au contraire, ont eu une conscience aiguë de ce qui était en train de se jouer et ont choisi la résistance. Et donc, il fait une lecture de Michelet qui parle de la Révolution, comme si la lecture de Michelet s'appliquait à la résistance. Si j'insiste sur cette continuité, c'est que vous voyez bien que il y a, indépendamment même de ce qu'on pourrait considérer comme des déterminismes en histoire, il y a des familiarités dans le regard qu'on peut porter. Et le fait que moi-même, je reprenne ces deux textes-là, montre que pour le coup, il y a des effets académiques qui font qu'il y a quelque chose quand même comme un savoir partagé par un certain nombre de personnes qui se considèrent comme historiens et qui donc ont des pratiques et des valeurs en partage.
Si on arrive à déterminer des causes qui agissent et produisent les mêmes effets que par le passé, ça veut dire qu'on suppose que l'historien pourrait avoir la capacité de prédire le futur.
Il y a une optique qui veut qu'en histoire, on n'écrive pas au futur. Et d'ailleurs, c'est devenu tellement une norme académique qu'on en est devenu à faire de l'académisme, c'est-à-dire à bannir tout futur, y compris le futur antérieur, des textes historiques. C'est-à-dire que dès qu'on a un étudiant qui se hasarde à mettre un malheureux futur dans une copie, oh là là, tout de suite, on le raye. Dès qu'il y a un collègue qui utilise le futur, oh là là, oui, c'est du déterminisme, c'est du finalisme. S'il met du futur dans le passé, ça veut dire qu'il connaît l'issue. Donc, c'est pas vrai, les gens à l'époque ne connaissaient pas l'issue. Or, il se trouve que quand on regarde le passé, et quand on est historien, on se rend compte qu'il y a des plans qui sont mis en place. Et dans l'histoire de la stratégie, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui prévoient le futur. Et nous, historiens, participons parfois à des commissions de planification. On peut le prendre à la base, hein, ça peut être une commission de planification pour le développement de l'université. Et on se sert de notre connaissance du passé d'une institution pour dire qu'il y a tel risque, qu'il y a eu tel précédent, qu'il y a eu tel élément. Donc l'usage du passé à des fins de prévision ne concerne d'ailleurs pas que les historiens. Les juristes sont très souvent liés par le précédent, sont très souvent liés par la jurisprudence. Donc c'est bien du passé qui va entraîner de nouvelles décisions, donc qui permet, dans une certaine mesure, de prédire. Mais la discipline historique, en général, c'est plus ou moins interdit de le faire. Elle a, à part peut-être en histoire économique, elle a très souvent préféré dire qu'elle s'arrêtait au moment où on basculait dans le présent. Et c'est ce qui explique que pendant des siècles, les historiens n'aient pas voulu parler des vivants, qu'ils n'aient voulu effectuer d'histoire qu'à partir du moment où les acteurs étaient morts.
Donc même pas d'histoire contemporaine.
Mais pendant longtemps, l'histoire contemporaine n'existait pas. On faisait de l'histoire jusqu'au moment où les archives étaient ouvertes. Et donc pour que les archives soient ouvertes, en général, il y avait des délais assez longs et la plupart des personnes étaient mortes. Et c'est finalement quelque chose d'assez récent que de faire de l'histoire du temps présent. Vous savez, c'est ce fameux laboratoire de recherche qui avait été fondé dans les années 70 par François Bédarida, dont Henri Rousseau a été le directeur, où j'ai travaillé moi-même avec Christian Ingrao, et avec cette idée qu'au fond, on allait pouvoir faire une histoire, mais qui continue jusqu'à aujourd'hui. Qu'on pouvait faire une histoire, on pouvait étudier une histoire qui n'était pas finie, donc dans lesquelles les protagonistes étaient encore vivants.
Et Fabrice d'Almeida, moi, parfois je lis des livres d'histoire des sciences, et on trouve souvent cette phrase, il a fallu attendre, 1905, et donc les travaux d'Einstein, pour comprendre que l'éther qui porte la lumière n'existe pas, comme si on était toujours en attente de quelque chose, comme si le présent n'était que une sorte de réservoir qui allait accoucher du futur. Est-ce que on doit avoir cette idée que le temps qui passe nous rapproche d'une espèce de révélation de ce qui va se passer?
Ça, c'est au fond ce qui est extraordinaire, c'est à quel point nous avons ingéré un mélange de Kant et de Hegel.
Je pose la question, si vous me permettez, parce que, évidemment, en 1900, personne n'a écrit, on attend Einstein pour résoudre le problème. Il n'y avait pas d'attente.
Évidemment.
Mais rétrospectivement, on en installe une pour laisser penser qu'il y a un sens à l'histoire.
Oui, alors, ça, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la manière d'écrire de la personne qui a fait ce texte, de l'attitude mentale qui est la nôtre. Dans l'attitude mentale de beaucoup de scientifiques, on continue malgré tout de penser que dans nos disciplines, il peut y avoir du progrès. D'une certaine manière, si nous rentrons dans une discipline sans nous dire qu'on va pouvoir y apporter une pierre, une touche, une précision, enfin quelque chose, on ferait pas ce métier parce qu'on aurait l'impression de ne servir à rien. Ou alors d'être les enseignants qui vont diffuser le savoir qui a été construit par nos prédécesseurs. Donc il y a bien toujours chez les scientifiques une forme d'illusion de progrès. Et je crois, enfin pour moi, elle est salutaire et elle est nécessaire parce que c'est elle qui permet qu'il y ait une fameuse accumulation de savoir, et voilà. Mais en réalité, ce qui est très intéressant aussi, c'est d'observer à quel point il y a de la déqualification. Parce que, au fond, il faut quand même le dire, abordons les vrais sujets de la politique intellectuelle et de la politique de recherche aujourd'hui. Le nombre de chercheurs a explosé. Depuis les années 60, la recherche est devenue un travail collectif avec des embauches. Bon, si on regardait les historiens, je pense qu'on doit avoir facilement une multiplication par 10 ou par 20 du nombre de chercheurs et du nombre d'universitaires. Et encore, je pense que je suis en dessous des vrais chiffres. Donc, quand on réfléchit à ça, ça veut dire que le savoir lui-même, ce qu'il faut savoir, a explosé. Si on ajoute là-dessus le fait que la pluridisciplinarité est devenue, au fond, une norme assez largement partagée.
C'est-à-dire, vous devez faire de l'économie, voilà, de la sociologie.
Voilà, tout ce qu'on considère.
L'histoire des idées.
Voilà, c'est-à-dire que l'histoire se pensant comme une science reine, notamment en France, elle avait pensé le monde entier considéré comme des sciences auxiliaires de l'histoire. L'archéologie, la philatélie, la muséographie, l'étude de la photo, même la cinéphilie dans une certaine mesure. Je pense à Antoine Debecq, est une science auxiliaire de l'histoire. Et puis, en histoire des sciences, Dominique Pestre a été physicien dans sa jeunesse. Donc, on pourrait imaginer que la physique est aussi une science auxiliaire de l'histoire. Les mathématiques, allons-y, les statistiques sont des sciences auxiliaires.
La technologie aussi a changé, voilà. Donc, la vie des sociétés.
Exactement. Donc, il y a cette vision des sciences auxiliaires de l'histoire qui font qu'il y a une explosion du savoir. Donc, ce qu'il y a de très passionnant, c'est qu'un historien du début du siècle pouvait connaître le savoir historique dans sa totalité. Le nombre de personnes qui l'écrivaient était relativement limité, le nombre de secteurs auxquels l'histoire était liée, essentiellement politique, était relativement limité. Aujourd'hui, on ne peut pas tout savoir. Donc le paradoxe est que nous avons dans une certaine mesure une moindre connaissance de notre propre discipline que celle que pouvait avoir un historien au début du 20e siècle.
Parce que vous êtes obligé de vous spécialiser.
Exactement. Donc on est extrêmement spécialisé, ce qui fait que avec des découpages qui sont parfois complètement absurdes. Moi, c'est un collègue coréen qui est le grand pourfendeur de ce qu'il appelle le nationalisme méthodologique. C'est Im Ji-yeon. Donc il a créé un centre d'histoire transnationale et il est sidéré du fait que la plupart du temps, il va de soi de travailler sur la France. Il va de soi de travailler, quand on est allemand, sur l'Allemagne. Et il va même de soi, en général, quand on prend un sujet. Si je prends l'histoire du nazisme, en réalité, est une histoire qui a été européenne. Mais très souvent, quand je vais dire que je travaille sur l'histoire du nazisme, naturellement, je vais me précipiter sur les archives allemandes. Et je vais commencer par dépouiller les archives allemandes. Alors qu'on peut tout à fait imaginer faire une histoire du nazisme depuis la France, en regardant uniquement des archives françaises. Mais vous voyez que là, je viens encore à deux reprises, d'utiliser ces concepts nationaux. Donc, comme s'ils allaient de soi, comme s'ils s'imposaient à moi d'une manière méthodologique. Donc,
on a... C'est une séparation spatiale, mais il y a aussi une séparation temporelle.
Oui, mais...
On se spécialise par époque.
Alors, exactement. Et ça, c'est l'autre aspect, c'est que...
C'est l'espace-temps de la relativité.
Voilà, et qui a été...
Se segmente.
Voilà, et qui, pour le coup, a été, alors je dirais pas réifié, mais pratiquement ossifié, en tout cas, à travers, par exemple, des ruptures au sein des sections du CNU. Il y a une 21e section dans laquelle
CNU,
se trouve
faut rappeler
du Conseil national, du Centre, Conseil national des universités. Donc c'est l'instance qui est plus ou moins censée gérer les carrières à l'échelle nationale des universitaires, des historiens. Donc il y a une section qui s'occupe de l'Antiquité et de l'histoire médiévale et une section qui s'occupe de l'histoire moderne et contemporaine. Et c'est pas les mêmes. Donc si un malheureux étudiant fait une thèse qui est à cheval entre le Moyen-Âge et l'époque moderne, eh ben ses chances d'être bien traité dans les deux sections ne sont pas égales. Tout dépendra éventuellement de son directeur
de recherche. Cette séparation, elle suppose implicitement qu'il y a eu des ruptures historiques.
Exactement.
Il y a des événements qui séparent les époques.
Exactement.
Est-ce que c'est légitime ?
Alors c'est ça qui est...
Et d'ailleurs, ça ramène à la question que je posais en préambule. Qu'est-ce que c'est qu'un événement historique ? Est-ce que c'est un événement qui sépare des époques ?
Moi j'aime bien, il y a une définition qu'a donnée Arlette Farge, que j'aime bien, Arlette Farge que connaissent bien les auditeurs de France Culture. Elle dit que l'événement est un moment, un fragment de réalité perçu qui n'a d'autre unité que le nom qu'on lui donne. Donc Arlette, elle est plutôt dans une vision de l'événement qui est désignée par l'historien. Moi, je pense quand même qu'il y a des événements qui sont perçus et définis par les acteurs eux-mêmes. C'est pas que nous, par exemple, le couronnement de Louis XIV, il y a à l'époque, dans les textes de contemporains, dans les textes d'un certain nombre de commentateurs, de chroniqueurs, que ce soit même, je pense à Saint-Simon ou d'autres, il y a des gens qui en parlent. Et donc ils l'ont vécu, ils y étaient, ils le racontent.
Mais c'est pas une surprise, il était préparé.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas seulement le nom qu'on lui donne, nous, historiens. C'est-à-dire que ce découpage de l'histoire, il est présent dans l'esprit des acteurs. L'idée d'événement, elle est présente chez Einstein, qui a une conscience historique extrêmement forte, qui est tout à fait conscient de ce qui se passe dans l'Allemagne des années 30, qui est conscient de ce que Heisenberg est en train de faire pour les nazis avec son programme de recherche, qui est conscient que lui et les Américains sont entrés dans une course de vitesse qu'il va falloir essayer de gagner, qu'il
oui,
va falloir faire
un certain... Hitler, c'est pas Mussolini.
Exactement.
Qui veut la guerre, etc.
Exactement.
Oui.
Donc,
il avertit Churchill dès 33.
Voilà. Et j'ai pris exprès cet exemple parce que je sais qu'Étienne Klein travaille en ce moment sur ce sujet, sur cette figure d'Einstein. Donc, je trouve que c'est un aspect tout à fait important de se dire que tout ne vient pas de l'historien. Parce qu'au fond, on a été à un moment donné, justement, vous parliez de relativisme tout à l'heure, il y a eu au fond une forme de crise relativiste dans les années 70 et 80 autour du linguistic turn, qui a conduit un certain nombre d'historiens à considérer que au fond, on ne pouvait pas traiter le réel. Puisque nous n'avions pas un accès direct au réel, nous ne pouvions traiter que des documents. Donc nous étions limité à nos sources. Donc nous faisions tous...
Donc condamnés à l'interprétation,
voilà,
seulement.
Exactement. Donc au fond, pour rester dans une approche scientifique, mais que moi je trouve qui est à la limite du scientisme, on a considéré qu'on n'avait plus accès au réel, qu'on n'avait accès qu'aux sources qui éventuellement parlaient de choses. Donc on traitait du document. Et en ce sens, on pouvait être tout à fait scientifique, on pouvait le traiter quantitativement, etc. On avait évité cette fois-ci la question de la dépendance à la subjectivité de la source. Puisqu'au fond, on ne traitait que du document. Donc on disait le nombre de mots. Je pense à ça parce que j'ai fait de la lexicométrie, moi, dans les années 70. Vous savez, la lexicométrie, c'était cette discipline où on rentrait des textes, une série de textes, et on regardait les mots qui revenaient le plus souvent. Combien de fois dans Mein Kampf, Hitler utilise-t-il le mot propagande ? Combien de fois utilise-t-il le mot juif, etc., etc. Donc ça nous permettait d'arriver à une autre perception du texte, et on avait l'impression, comme on était passé par l'ordinateur, qu'on avait tout numérisé, que c'était un travail fait automatiquement par un logiciel, et ben c'était encore plus scientifique que ce que pouvaient faire les autres. Mais au fond, ce qu'on refusait, c'était le défi du réel. Or, la question du traitement du passé suppose qu'à un moment donné, on prenne en charge, comme fait un vrai scientifique, qu'on prenne en charge le réel, qu'on ne se limite pas simplement aux outils. Et ça, je trouve que c'est un peu ce qui est revenu en odeur de sainteté dans les années 90 et 2000, peut-être sous l'effet de la chute du mur de Berlin. Y a-t-il eu un retour au réel, pour le coup, à cause de l'ouverture, justement, des archives, qui ont posé des questions extrêmement graves, qui ont pu entraîner parfois des poursuites en justice, donc pour des gens qui avaient effectué des crimes, sous la dictature, et donc, et puis aussi peut-être sous l'effet, paradoxalement, de la crise négationniste.
Écoutez France Culture, la conversation scientifique par Étienne Klein.
Je parlais tout à l'heure des rapports de police. Si on regarde la fin, je prends une des affaires que j'ai étudiées, l'affaire Petiot. Bon, Petiot, on découvre.
Vous aimez les grands criminels.
J'aime
crois.
Bien. Enfin,
vous aimez les
j'aime. Je sais pas. En tout cas, je pense que c'est des cas assez intéressants puisqu'il y a de l'événement. On découvre une maison dans laquelle il y a des cadavres. On est en 1944. Il y a un policier qui est le commissaire Massu qui commence à mettre en place une enquête, etc. Les mois passent. On n'arrive pas à l'attraper. On fait passer une fausse annonce comme quoi Petiot aura été un collabo. Ça, visiblement, lui, il le prend mal. Donc, il écrit une lettre pour dire que pas du tout, il n'était pas un collabo, il est un résistant. Bref, à un moment donné, il est capturé. Et il y a, dans son dossier aux archives de la préfecture de police, le premier interrogatoire qu'il fait devant un capitaine des FFI qui joue le rôle de policier et qui l'interroge. Et lui, il dit, en fait, je suis un résistant, j'appartiens à un réseau extrêmement important, qui était le réseau Flytox. C'est ce qui fait marrer parce que c'était... vous vous souvenez que le Flytox, c'était le truc pour tuer les moustiques. Hein, c'était un insecticide. Bon. Et ils étaient chargés d'éliminer des collabos et des nazis. Et donc, il dit qu'il a fait son travail avec beaucoup... Il dit qu'il a inventé une arme, etc. Bref, le type qui l'écoute, visiblement, se laisse embobiner. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça nous permet, ça, de montrer comment une source peut nous embobiner, comment elle peut nous séduire. Si on s'en était tenu là, au fond, ben on aurait eu affaire à un héros de guerre. Mais il se trouve que l'enquête continue. Et on a, à la fin du dossier, le récapitulatif par le juge d'instruction. Et le juge d'instruction donne, lui, d'autres faits qui, pour le coup, incriminent vraiment Petiot et montrent à quel point ce type a commencé à faire des meurtres bien avant, comment en 1942 il s'est débarrassé de ses cadavres en les jetant dans les étangs ou des canaux de la région parisienne parce qu'il ne savait pas quoi faire des corps, il n'avait pas encore mis en place tout son système, en fait, de brûler les cadavres chez lui, dans sa maison. Donc ça, c'est extrêmement...
Ce que je veux dire, c'est que si on mène bien l'enquête historique...
On peut arriver.
La vérité finit toujours par sortir.
On peut arriver. Alors toujours, parfois on n'a pas les éléments, parfois on est face à ce que les physiciens ou les astrophysiciens appellent un trou noir. C'est-à-dire quelque chose qui dégage énormément d'influence sur son environnement, qui exerce une influence très forte sur son environnement, mais qui n'est pas perceptible pour nous.
Vous nous pompez tous nos termes hein, dans votre article sur l'imprévu en histoire, vous dites qu'à la fin...
Non mais j'aime
que
bien, c'est... de manière métaphorique, Étienne.
Il y a une matière noire de la conscience historique. Qu'est-ce que c'est que la matière noire de la conscience historique? Ça interroge le lien entre l'événement et la structure.
Oui.
Je vais vous citer Alain Badiou, parce que lui s'intéresse à cette notion d'événement, montrer comment l'événement peut surgir tout en étant porté par la structure. Il dit ceci, lorsqu'un événement survient, il est comparable à une surprenante remontée des éléments, jusqu'alors imprésentés, de cette situation. Cette surprise venue du vide sous-jacent fait surgir à la présentation des éléments ignorés. La veille d'une révolution, tout peut sembler en ordre. Mais à l'aube, soudainement, quelque chose advient que la structure n'avait pas envisagé. Ces hommes prêts à tout, fusils à l'épaule, idées en tête, cet événement ne vient pas pour autant de nulle part. La ressource sommeillait dans les profondeurs. Cette puissance est soudain révélée et si elle donne à la structure le sentiment d'un vide qui fait surface, elle est aussi et surtout bouleversement de la situation. Donc si on prend l'exemple de la chute du mur de Berlin, c'est bien un événement historique, mais il a été porté par toute une série de causes, on pourrait dire. Et ce qui était ignoré, c'est simplement le moment où il allait se produire.
Mais celui-là, à la limite, j'allais dire, n'était pas forcément le plus imprévisible. pour les spécialistes.
Sauf le moment.
De cette époque. Voilà.
C'est un peu comme pour la radioactivité. On sait qu'un atome radioactif va se désintégrer, mais on ne sait pas dire à quel moment il va le faire.
Oui, exactement.
Mais il est déterminé à le faire.
Oui, oui, c'est ça. C'est, ben, ça fonctionne parfaitement. Mais c'est vrai que quand on regarde les chutes du mur, je le mets exprès au pluriel en pensant à l'ensemble des pays d'Europe de l'Est et à la façon dont progressivement s'est effectuée la désoviétisation, la Pologne, ça commence en 1980. La Hongrie, en 84, ils y sont déjà. Ils ont déjà réussi à faire un certain nombre de réformes économiques. Et puis, on avance. On a la Russie, à partir de 85-87, il y a la perestroïka, la glasnost. Et puis ensuite, on avance. On a la DDR, qui, deux ans avant, commence. Et puis, on en arrive à avoir, finalement, la Tchécoslovaquie, qui fait une révolution de velours en 10 jours. Donc, c'est très intéressant de se dire que chacun de ces pays n'a pas eu le même rythme. Et que pour certains, il y a eu un effort qui a été pratiquement de 10 ans pour arriver à modifier leur système politique avec des phases de transition, de répression, etc. Et pour d'autres, tout s'est joué en quelques jours. Donc ça, c'est...
Mais est-ce que ça a été porté par leur propre histoire, la chute du mur de la Hongrie, par exemple, ou de la Pologne, ou bien est-ce que c'est par mimétisme qu'il y a eu une sorte d'effet domino?
Non, mais j'allais dire, chacun de ces pays a influencé l'autre. L'action polonaise a joué sûrement sur l'Union soviétique. C'est clair que Gorbatchev regarde ce qui se passe en Pologne, regarde ce qui se passe aux États-Unis, il a une pensée géopolitique, mais lui-même est dépassé par le mouvement qu'il met en place avec la perestroïka. Donc c'est très intéressant de regarder ça, mais dans le sens où effectivement on voit qu'il y a des déterminants différents, géopolitiques, historiques, économiques, stratégiques, industriels, économiques. Donc tout ça, ça c'est perceptible et tout ça interagit. Mais j'allais dire, on pouvait penser qu'il y aurait une fin à cela, qui aurait pu être tragique sous la forme d'une guerre atomique. Bon, mais on pouvait le penser. En revanche, moi, ce qui m'a beaucoup plus sidéré, c'est un événement comme 68. Je me souviendrai toujours que, et c'est ce qu'on donne à nos étudiants comme remarque, c'est le journal Le Monde qui titre une semaine avant « La France s'ennuie ». La France s'ennuie. Il se passe rien. Et puis, il y a ces étudiants qui veulent pouvoir accéder au dortoir des filles. On est à Nanterre, qui vont faire ce fameux petit mouvement du 22 mars. Ça démarre comme ça. On n'a pas l'impression qu'il va se passer une espèce de frémissement extrêmement intense pendant les 2 mois qui vont suivre. Donc, c'est ça qui est extrêmement fascinant. C'est quand il n'y a aucun signe annonciateur, quand il n'y a rien. Alors, en même temps, vous allez me dire, mais Fabrice, 10 ans plus tôt, ils avaient fondé l'Internationale Situationniste. Donc, on pourrait faire le même calcul. Et c'est vrai que l'historien, on a cette tentation. Comme on est un petit peu omniscient et qu'on a un don d'ubiquité grâce à l'archive, eh ben on en arrive à pouvoir essayer de reconstruire ex post les éléments qui ont pu favoriser ou au contraire empêcher, bloquer une situation d'évoluer.
Françaises, Français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. J'ai proposé au pays un référendum qui donnait aux citoyens l'occasion de prescrire une réforme profonde de notre économie et de notre université, et en même temps de dire s'ils me gardaient leur confiance ou non, par la seule voie acceptable, celle de la démocratie. La République n'abdiquera pas. Le peuple se ressaisira. Le progrès, l'indépendance et la paix l'emporteront avec la liberté. Vive la République, vive la France.
Alors, je disais tout à l'heure que dans votre article sur l'imprévu en histoire, Fabrice Almeida, vous parlez de la matière noire de la conscience historique.
Oui, bah...
C'est quoi? C'est tout ce qu'on ignore mais qui agit?
Ben, c'est-à-dire que ce qui me frappe, c'est que quand on essaie de réfléchir à la façon dont les gens prévoient les choses, donc les acteurs prévoient les choses, Il y a aujourd'hui, au sein de l'état-major français, dans l'armée, il y a eu un livre blanc de la défense, il y a des investissements qui ont été pris, il y a une des options stratégiques qui ont été déterminées pour les 20 prochaines années, qui supposent un certain type d'armement, un certain type d'investissement industriel. Ok, bon. Il y a ensuite un certain nombre d'historiens qui peuvent vous parler de la façon dont la France évolue depuis 1945 en matière de défense, en matière de comportement, etc. Et puis, il y a tout ce à quoi nous n'avons pas pensé. Et pour moi, la matière noire, c'est ce qui nous paraît impensable. Et si j'ai pris cet exemple de l'impensable, c'est parce que, au fond, si on regarde les gens de l'entre-deux-guerres, de l'antisémitisme, il y en a. On a Charles Maurras qui menace de fusiller Léon Blum en 1936, dans le dos. On a des gens qui, à l'Assemblée nationale, insultent le juif Blum. On a, en Allemagne, une montée de l'antisémitisme qui se traduit par les lois de Nuremberg en 1935. On a même la nuit de cristal, le 9 novembre 1938, qui est un moment clé comme ça. Mais au fond, personne n'a dans l'idée qu'il va y avoir un massacre, une liquidation systématique d'une population qui va s'effectuer de la manière dont ça s'est effectué, qui a en partie dépendu des circonstances historiques, etc. Et ce qui me frappe, c'est que cet impensable, cet impensé, au fond, a été ensuite l'événement peut-être le plus lourd de signification et de portée dans l'histoire de l'après-1945. Puisqu'au fond, une grande partie...
C'est-à-dire que rétrospectivement, on peut dire qu'il s'agissait là d'événements historiques.
Exactement. Que c'était même...
Que
c'est même l'événement le plus lourd dans la longue durée du droit international, de la structuration des sociétés occidentales. On vit sur cette idée des droits de l'homme qui date de 89, mais qui a été très largement remise en vigueur, remise en valeur, en odeur de sainteté, en 1948 avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui, elle, évidemment, avait dans sa mémoire ce moment clé qui a été celui du mot qui a été créé pour ça, qui était celui de génocide. Donc c'était ça qui m'a paru extrêmement frappant, c'est à quel point quelque chose qui est un événement massif, majeur, qui est effectué, il faut quand même le rappeler, dans le secret, puisque même si aujourd'hui on se dit qui savait quoi et qu'on arrive à voir que certaines personnes savaient des choses, connaissaient des bribes de ceci, des bribes de cela, l'objectif de l'état-major de la SS, c'était d'effectuer ces choses-là dans le secret, qu'il n'y ait pas de témoins des liquidations, qu'ils soient massacrés et que seuls ceux qui en avaient bénéficié continuent, puisqu'ils récupéraient des objets, ils récupéraient des biens, bon, et que seuls eux soient au courant. Donc c'est intéressant de se dire ça. Cet événement effectué dans le secret, cet événement impensable, cet événement impensé est au fond celui qui, dans la longue durée, a complètement bouleversé la conception même qu'on peut avoir de ce qui est important dans une société. Jusque-là, ce qui était important dans une société, c'était d'avoir des héros, des personnes qui avaient agi, qui étaient prêts à sacrifier leur vie pour la collectivité, des martyrs. Et puis, à partir de cet événement, ce qui devient crucial dans une société, c'est la protection des innocents, de ceux qui n'ont rien fait, qui n'ont effectué aucun acte, aucune action nuisible pour la société. Eh bien, ce sont eux qu'il va falloir protéger, ce sont eux qui constitueront peut-être la norme suprême de nos sociétés. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et on pourrait en discuter, et sûrement ça va heurter si on en discute, mais c'était très frappant de voir à quel point, sur l'événement du 13 novembre, il y a eu un personnage héroïque. Il y en a eu un. C'est ce commissaire qui rentre, qui abat un des terroristes et dont la plupart du temps, nous ne connaissons pas le nom. Ce héros-là a été sans doute célébré de manière relativement discrète, mais je n'ai pas vu de manifestation particulière, de reportage particulier fait sur lui. En revanche, dans les médias, ce que nous avons vu, c'est la célébration des innocents. C'est-à-dire qu'on a vu à quel point les victimes de cet événement, celles qui ont été blessées, celles qui ont été touchées, qui ont perdu des proches, ont été célébrées et ont fait l'objet, je pense au journal Le Monde, d'un véritable martyrologe. Donc là, on voit bien à quel point cette idée de la victime innocente est bien devenue au cœur de notre culture intellectuelle et morale.
Mais donc ça doit changer rétrospectivement ce qu'on appelle un événement historique. Est-ce qu'on pourrait dire que le travail de l'historien, c'est de réviser ce qu'on a appelé dans le passé des événements historiques?
Oui.
De changer leur hiérarchie, la façon de les comprendre, de faire émerger des événements qui étaient cachés en montrant qu'ils ont été déterminants?
Moi, je pense qu'il y a eu un, changement considérable qui s'est produit justement après la chute du mur. C'est que la notion d'événement, qui était souvent ramenée à une unité de temps relativement étroite, on n'aurait pas dit que 68 était un événement, ou on disait qu'il y avait des événements dans 68. Ou alors l'événement monstre, un peu comme pouvait en parler Pierre Nora.
Les événements d'Algérie, qui est une forme de...
Voilà, mais c'était les événements, pour... c'était les pluriels. Oui. Or, nous, on aurait peut-être tendance aujourd'hui à traiter...
Qu'est-ce que ça veut dire ce pluriel, quand on dit les événements plutôt que l'événement?
Ben, ça veut dire qu'il y a eu une série. Si je dis l'événement guerre d'Algérie, ça veut dire que je considère que toute la guerre d'Algérie est un espace-temps, avec ses actions, etc., etc., et a une cohérence séquentielle. Pour le coup, je périodise. Mais justement, je pense qu'aujourd'hui, on en est arrivé à avoir une notion de l'événement qui est capable non plus d'être une unité minimale, au sens presque, vous savez, en sémiologie, on définit le sème, hein, l'unité minimale qui produit du sens. Et pendant très longtemps en histoire, l'événement était cette unité minimale. Donc c'était la signature d'un décret, la signature d'un traité, le début d'une guerre. Une journée pouvait être un événement, en fait. La bataille d'Eu avait duré une journée. Ben voilà, c'était un événement. Donc, en fait, c'était cette unité-là. Aujourd'hui, en fait, je crois que la notion d'événement s'est élargie et on met à l'intérieur de l'événement parfois des séquences qui peuvent durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Et ça me paraît être un relatif changement d'approche. C'est-à-dire que l'événement n'est plus d'unité minimale d'appréciation, mais en fait, c'est une unité d'analyse des effets. Et c'est pour ça que la définition d'Arlette Farge était intéressante, c'est qu'il y a la perception. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons tendance à percevoir des choses beaucoup plus grandes comme événements qu'auparavant. En science, il y a un aspect qui est tout à fait crucial, qui est que on doit fournir quelque chose qui ne se sait pas déjà. Donc si, au fond, les historiens se cantonnent à redire ce que les médias disent, eh bien, autant dire que leur travail est inutile. Il est redondant. Donc il faut, et c'est ça la noblesse et la difficulté de notre travail, arriver à trouver des éléments explicatifs, des éléments analytiques, des éléments de compréhension, en tout cas de la pensée, à travers des outils ou à travers des documents auxquels les médias n'ont pas eu accès.
Qu'est-ce que vous pensez de la phrase d'un Premier ministre qui a dit que tenter de comprendre ou d'expliquer le terrorisme, c'était le justifier? Est-ce que ce n'est pas une négation de l'idée même que les sciences humaines peuvent apporter des éléments explicatifs à des phénomènes qui se répètent?
Non, mais là, il faut toujours distinguer ce qui relève du discours propagandiste et ce qui relève du discours historien. Manuel Valls, en l'occurrence, là, ne faisait pas œuvre d'historien. Il était à un moment de mobilisation, à un moment où il souhaitait qu'on fasse corps, j'imagine, comme nation. Et donc, en plus, ça contredisait sa propre attitude, puisque lui-même était bien obligé d'essayer de comprendre ce qu'était le terrorisme pour mettre en place une politique de lutte avec, etc. Donc, pour moi, ça relève plus de la formule qui, pour le coup, je pense, a fait réagir beaucoup de gens d'une manière surréagir, parce que pour moi, c'était une formule qui était à passer par perte et profit. Enfin, on en a eu beaucoup dans l'histoire des comme ça. En revanche, ce que vous venez de toucher, c'est à quel point les politiques aujourd'hui essayent d'avoir des politiques sur l'histoire. C'est-à-dire soit par la commémoration, soit par l'intervention sur le passé. Ça a été vrai de Nicolas Sarkozy, ça a été vrai de François Hollande.
C'est pour lutter contre le présentisme?
Alors,
c'était à l'idée que seul le présent compte?
Alors,
l'histoire a besoin de se manifester par des procédures presque artificielles, où on fait revenir par des cérémonies des événements passés.
Exactement. C'est-à-dire que leur objectif est que la mémoire, telle qu'ils la conçoivent, c'est-à-dire le souvenir identitaire, parce qu'au fond, c'est ça qui se joue aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on débat aujourd'hui sur la scientificité de l'histoire, sur l'objectivité de l'histoire? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de critiques faites contre des historiens? C'est parce qu'au fond, aujourd'hui, la matière du passé est devenue le support des identités politiques et des identités collectives. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a véritablement un conflit qui se joue sur l'histoire. Et qu'on a un certain nombre de gens qui n'ont qu'un objectif, c'est disqualifier les historiens, et en particulier les historiens universitaires. Pourquoi? Parce qu'en général, ils remettent les pendules à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent que on peut utiliser une notion, mais qu'elle risque d'être, pour le coup, anachronique, plaquer la notion de génocide sur ce qui s'est passé au 15e ou au 16e siècle, est-ce que c'est logique? Plaquer la notion de crime contre l'humanité dans la Rome antique, est-ce que c'est logique? Est-ce que ça justifie? Est-ce qu'au contraire, on doit éviter ce type type d'anachronisme. Donc, vous voyez bien à quoi je fais allusion et en quoi ça met en cause des groupes humains. Et ça modifie le rapport de force que ces groupes peuvent entretenir avec d'autres. Donc, c'est ça qui est très sensible et qui me frappe et qui me fait que je trouve que les offensives qui sont faites contre les historiens sont tout à fait parallèles, par exemple, à celles qu'on a pu faire contre les climatologues. Quand les climato-sceptiques s'en sont pris au réchauffement climatique, ils n'ont eu de cesse de montrer que, en fait, ceux qui parlaient du réchauffement climatique étaient engagés, n'étaient pas objectifs. Donc, au lieu d'analyser les faillites éventuelles de leur savoir, ils se sont d'abord attaqués au sujet. Et moi, je trouve qu'en histoire, c'est très souvent comme ça qu'on procède. Quand on n'est pas d'accord avec un collègue, plutôt que de dire « il se trompe sur tel ou tel aspect », ben, en général, on dit, ben, lui, il n'est pas bon parce qu'il est de droite, lui, il est bon parce qu'il est de gauche, lui, il n'est pas bon parce qu'il est ceci. Ou évidemment, on va disqualifier, par exemple, l'histoire des femmes parce qu'elle est faite par des femmes.
Ils sont d'accord entre eux, donc ils nous manipulent.
Et c'est exactement ça. Or, ce qu'il y a de très fondamental, et je pense que là, pour le coup, il y a un apport de Popper là-dessus. Il ne faut pas oublier Karl Popper. Il avait cette idée, il disait, très souvent, on confondait deux choses. On confondait la neutralité du sujet, c'est-à-dire de celui qui écrit, qui doit être plus ou moins neutre, qui est un des aspects de la scientificité, avec l'objectivité du savoir. Et pour moi, c'est ça qui est clé. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, en histoire, il y a beaucoup de gens qui écrivent sur le passé? Il y a beaucoup de gens qui écrivent parfois des fictions, parfois des livres d'identité, parfois des livres scientifiques. Et donc, il faut bien arriver à avoir des critères pour distinguer ce qui est un écrit véritablement scientifique, qui répond aux critères justement que vous mettiez à la fois de généralisation, donc de portée théorique, de falsifiabilité. Je reprends ce concept, c'est pas la peine de l'expliquer. Je pense que tout le monde connaît cet apport de Popper, hein, donner les éléments pour qu'on puisse montrer qu'une théorie est fausse. Bon, qui puisse éventuellement avoir un élément de capacité de prédiction, pas sur le passé, mais sur les éléments de structure qui ont été mis en place et qui peuvent se reproduire et qui peuvent reproduire les mêmes effets. Donc ça, c'est fondamental, c'est parce que si on n'applique pas ces critères-là, si on ne reste pas sur la notion du savoir, ben pour le coup, on n'est plus dans la science, on est dans la polémique, on est dans l'idéologie et on est dans ce que j'appelle, moi, les prophéties. Il y a beaucoup de prophètes qui écrivent sur l'histoire. Celui que je prends souvent en exemple pour mes étudiants, c'est Éric Zemmour. Éric Zemmour est un prophète, mais qui utilise le passé. Donc à partir d'un certain nombre de croyances, ben il diffuse un certain type d'événements analytiques. Mais Éric Zemmour n'est pas historien. Et en général, d'ailleurs, il a la modestie de s'appuyer sur les travaux d'autres historiens. Donc c'est ça qui est très important, c'est que aujourd'hui, soit pour des raisons identitaires, soit pour des raisons prophétiques, il y a un certain nombre de gens qui ont pour objectif de démolir les savoirs objectifs. Et que ce soit celui des historiens, que ce soit celui des sociologues... Et
comment vous expliquez ce phénomène? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse autant à nos origines pour fonder l'idée d'une identité qui serait un héritage du passé plutôt que de la banaliser ou de la considérer comme contingente? Finalement, j'ai l'impression qu'on est en train d'essentialiser ce qui est contingent. Le fait qu'on soit juif, catholique, musulman, en fait, est contingent. On l'hérite.
Il n'y a pas que ça, en fait. Je ne crois pas que l'histoire soit uniquement, pour le coup, définie en termes d'origine. Ça, c'était l'histoire d'avant.
Non, mais pardon, l'histoire aujourd'hui. Les Français aiment à penser qu'ils ont toujours été blancs.
Oui, mais ce qu'ils vont faire aujourd'hui, c'est pas qu'ils vont vous montrer qu'ils ont toujours été blancs. Ça va pas être ça l'objectif du livre d'histoire. Ça va être de montrer ce qu'ils subissent. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il y a de très frappant, c'est que l'histoire comme support identitaire aujourd'hui est là pour montrer les violences ou les outrages subis, moins que pour montrer les origines. Donc c'est en ce sens qu'elle touche parfois à l'histoire, au sens disciplinaire et scientifique du terme, parce qu'elle va aller chercher des documents qui montrent une certaine orientation, parfois de manière démesurée, parfois de manière assez juste. Et c'est ça qui est fondamental, c'est que ces acteurs de la mémoire et de l'identité, parfois, sont des excellents stimulateurs de nouveaux travaux historiques. Mais eux le font avec un propos qui est un propos, effectivement, idéologique. Mais ça, c'est la même chose pour les prophètes. J'utilise exprès ce terme à connotation religieuse, parce qu'on a en histoire des hommes politiques ou des polémistes qui utilisent l'histoire pour justifier leurs prédictions sur l'avenir. En ce moment, c'est plus marqué d'une certaine manière à droite. Je pense à des auteurs comme Philippe de Villiers qui a une optique, qui a une lecture du passé. Quand il travaille sur Charette, il est clair que dans son optique, il y a la Vendée, il y a une opposition à ce que la Révolution a pu constituer en termes de génocide, etc. etc. Bon, donc vous voyez bien le débat que ça peut susciter. Mais on a aussi, de la même manière, des gens qui, à gauche, ont le sentiment prophétique de la réussite de la classe ouvrière ou du peuple. Je pense au livre de Mélenchon, L'ère du peuple, où il y a effectivement cette idée-là, un peu à la Michelet, qu'on peut transformer la société par cet acte de volonté. Donc, ce qu'il y a d'important, c'est que pour ces gens-là, ce qui invalide ou ce qui contredit leur thèse va être laissé de côté. Et notre travail historien, c'est généralement de les contredire, de dire ben, il se trouve que ça ne s'est pas exactement passé comme ça, il se trouve qu'il y a pas... Et donc, nous sommes devenus les hommes à abattre, en quelque sorte.
Ceux faire qui... de l'histoire, ce n'est pas simplement recenser les événements, c'est aussi interpréter leur succession, les effets qu'ils produisent, etc.
Exactement.
Et est-ce que ça peut se faire en toute objectivité, sans se référer à une idéologie ou à une école de pensée, une façon d'interpréter?
On n'est pas des acteurs neutres, et évidemment, tout le monde va trouver naïf de dire que l'historien, il est neutre, etc. Mais ce qu'il y a d'important, c'est quand même de savoir si les procédures qu'on utilise pour arriver à des conclusions respectent ou pas un certain type de protocole. Qui a au fond été mis en place en partie au 19e siècle, qui a été retouché très largement au 20e siècle, qui suppose qu'on ait quand même des supports d'analyse qui soient extrêmement larges, c'est-à-dire qu'on travaille plus aujourd'hui avec un seul document. En général, on analyse des très grandes séries d'archives, des très grandes séries documentaires. On se laisse pas piéger par une seule notion sur un seul témoignage. Donc c'est quand même ces protocoles-là qui nécessite effectivement une certaine forme de professionnalisme, c'est-à-dire d'aller dans des institutions à intervalles réguliers, qui nécessite aussi du débat avec des collègues, la mise en place de procédures de contrôle. Donc on est quand même dans quelque chose qui n'est pas, j'allais dire, qui ne relève pas de la simple subjectivité de « je me suis levé ce matin, je me suis étiré et j'ai décidé d'écrire que, je ne sais pas, Hitler ou Staline étaient ceci ou cela ». C'est pas ça. On va avoir dépouillé. Je vais prendre un exemple, ça va, de mes propres recherches. Je travaille sur le pouvoir nazi. Je vais aller regarder à Berlin énormément d'archives d'État, d'archives du parti, d'archives du ministère des Affaires étrangères, de documents filmés, de documents de presse, etc., etc. Et à la fin, j'arrive à reconstituer les réseaux de relations au sein des élites nazies, qu'elles soient élites d'affaires, qu'elles soient élites aristocratiques, qu'elles soient élites des arts, qu'elles soient élites du spectacle, qu'elles soient élites politiques. Donc j'arrive à trouver les carnets de balles, j'arrive à trouver les listes d'invitations, j'arrive à trouver les plans de table, et donc à ce moment-là, je peux en déduire un certain nombre de choses sur la convivence au sein d'une élite. Donc ça, c'est un travail. On peut me reprocher toute la subjectivité que je veux, que je suis anti-nazi, que je suis un post-communiste, que je suis un libéral, j'en sais rien. Enfin, on pourra me reprocher ce que je veux. Mais à l'arrivée, quand même, on arrive à dégager un certain nombre d'éléments qui montrent qu'il y a une forme d'élite avec des cercles de sociabilité qui s'est mise en place. Et ça, pour le coup, c'est un savoir objectif, vérifiable, qu'on peut discuter et qui sûrement, comme dans toute discipline, fera l'objet un jour d'une interprétation différente.
Merci Fabrice d'Almeida. On a répondu à presque toutes les questions qui étaient posées au départ. Pas toutes, donc il faudra que vous reveniez.
C'est gentil.
Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était La Conversation Merci. Scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Catherine Madure, à la technique Jean-Baptiste Etcheparé-Borde et à la réalisation François Connac.
Demandez le dernier succès du docteur Goebbels avec la photographie du Führer et des principaux collaborationnistes en uniforme de pendu. Demandez la complainte du nazi. Écoutez bien, on va vous chanter le premier.
Une année finie, l'autre commence. L'un après l'autre, les mois s'avancent, apportant dans leur cortège bleu la promesse de jours plus heureux. Et pendant que la victoire s'apprête à revêtir ses habits de fête, le voile noir des désastres s'étend, oui, sur le Reich et ses derniers amis. Et en chœur, c'est la complainte des nazis, c'est la complainte des pourris, qui met au ventre des salauds la fleur de la corde ou du porc.
dodo. Elle accompagne en quelques mots l'agonie de l'ordre nouveau. À vos potences, hommes de Vichy, c'est la complainte des nazis. À vos potences,